Alors, le sujet qui nous occupe ce soir, c'est la beauté est-elle le but de l'art ? Alors, pour commencer, j'aime bien prendre un exemple issu de la littérature. Alors, un exemple assez classique pour parler de création artistique, pardon, c'est la nouvelle de Balzac, Le chef-d'œuvre inconnu. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Je vous en recommande la lecture. Elle est courte et simple. J'aime bien dire ça parce que c'est l'habitude. Je dis ça à mes élèves pour les faire lire. Donc, dans cette nouvelle, Balzac met en scène trois peintres, Poussin et Porbus, qui sont tous deux des peintres ayant réellement existé, et puis un personnage de fiction qui est Fraunhofer, et qui est dans le roman, enfin dans la nouvelle, réputé un peintre génial, un artiste génial. Et on assiste à deux moments de création artistique de la part de Fraunhofer. Alors, la première, c'est en quelques coups de pinceau, de manière très facile, le maître Fraunhofer rectifie un tableau de Porbus, qui est d'ailleurs un tableau réel, je crois, Marie l'Égyptienne. Et donc, il y a cette scène dans le roman où, dans l'atelier du peintre Porbus, le maître parvient vraiment très facilement à donner vie à ce tableau qui, dit Balzac, est bien fait mais sans expression. Et pour réussir à donner de l'expression au tableau, Fraunhofer dit à Porbus qu'il faut non pas imiter, mais exprimer la nature. Et donc il y parvient de manière presque spontanée, immédiate. Et puis parallèlement, deuxième œuvre dont il est question dans la nouvelle, c'est l'œuvre propre de Fraunhofer, dont le titre est « La belle noiseuse », qui a donné d'ailleurs un film qui est une adaptation de la nouvelle de Balzac. Et on apprend que Fraunhofer ne parvient pas à finir sa propre œuvre, qu'il est depuis dix ans préoccupé par ce chef-d'œuvre, ce qui doit être son chef-d'œuvre, et qu'il n'arrive absolument pas à terminer. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à exprimer dans ce tableau l'idéal de la beauté féminine. Donc, du coup, pour l'aider, Porbus lui prête sa petite copine, Gillette, qui va faire le modèle. Et puis, enfin, Fraunhofer arrive à peindre cet idéal féminin. Il convie les deux autres peintres à voir le résultat de son travail. Et là, stupéfaction, on ne voit rien sur le tableau, sinon un galimatière impossible, un mélange impossible de couleurs, quelque chose d'absolument décevant. Et simplement, dans un tout petit coin, un pied, magnifiquement fait, mais rien d'autre. Donc on constate avec cet exemple-là, qui nous servira un peu de fable fondatrice, de mythe fondateur pour notre réflexion philosophique, on constate que finalement, ici, l'art qui cherche à exprimer le beau idéal, à exprimer la beauté idéale, eh bien, se confronte à un échec. Alors, un échec relatif, on peut interpréter de diverses manières la nouvelle de Balzac. Soit c'est l'échec du créateur, il voulait exprimer le beau idéal et puis il n'a pas réussi. Il a fait un tableau épouvantable de la vie des deux autres peintres. Soit c'est un génie, trop en avance sur son temps. D'ailleurs, Picasso, paraît-il, s'est identifié avec ce personnage. Un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard, c'est un peu le génie précurseur. Mais en tout cas, il y a un échec dans la réception. C'est-à-dire que si, à la rigueur, par des méthodes, par des procédés visionnaires de type cubiste, Fraunhofer a réussi à exprimer quelque chose de l'ordre de la beauté idéale, en tout cas, cette beauté n'est pas perçue par ceux qui voient le tableau. Donc il y a un échec au cœur de la création, soit du point de vue du créateur lui-même, qui n'arrive pas à exprimer ce beau qu'il cherche, soit il y a un échec du point de vue de la réception. En tout cas, on n'est pas unanimement certain qu'il s'agit là du beau idéal qui était visé. Autrement dit, la question que je pose, c'est est-ce qu'une pratique artistique qui se fixe comme objectif de produire le beau, ou d'exprimer le beau, ou peut-être d'imiter le beau qui serait par ailleurs dans la nature, puisque c'est le cas ici, la jeune fille qui sert de modèle est elle-même belle. une pratique artistique donc qui se fixe comme objectif de produire le beau n'est-elle pas vouée à l'échec ? Il y aurait une impossibilité à manifester le beau, parce que par définition, le beau ou la beauté, c'est un idéal. Donc un idéal comme une ligne d'horizon, c'est quelque chose qui est toujours devant nous, mais qui en même temps ne se laisse jamais saisir. Plus on avance, et plus ça s'éloigne. Bon. Donc une impossibilité à l'exprimer charnellement, à l'exprimer matériellement dans l'œuvre d'art. Il y a un paradoxe, en fait, c'est que du fait de son idéalité, de son caractère idéal, le beau est inexprimable et en même temps, il est poursuivi et recherché. Et puis, en même temps, il y a une relativité du beau. On va le voir, c'est aussi problématique. Ce qui est beau pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Ici, ce qui est l'essence de la beauté pour Fraunhofer ne l'est pas du tout pour Porbus et Poussin. Donc, à la fois une idéalité du beau et à la fois une relativité du beau. Échec, donc, pour l'art. Quand il cherche à exprimer le beau. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment renoncer à toute idée de beauté en art, ne serait-ce que parce que le public, on va appeler comme ça, l'amateur d'art, réclame la beauté dans l'art. Le tout venant, c'est-à-dire vous et moi, cherche à ce que l'art soit beau. Cherche, en tout cas, dans la contemplation des œuvres d'art, qu'on lui ouvre une fenêtre où il puisse vivre une expérience qui, d'une certaine manière, ne peut être vécue nulle part ailleurs, c'est-à-dire un peu de temps gratuit pour la contemplation de quelque chose qui réjouit le regard ou l'oreille, finalement qui produit un plaisir ou qui permet un plaisir à la fois désintéressé et en même temps un plaisir immédiat, hein, qui ne passe pas par une réflexion intellectuelle très compliquée. Bon, on va dire les choses de manière simple pour l'instant, c'est ça finalement qu'on cherche quand on n'est pas spécialement averti ou spécialement supérieurement cultivé en matière d'histoire de l'art. Voilà ce qu'on cherche peut-être lorsque on va voir des œuvres d'art. Ou lorsqu'on écoute de la musique, tout simplement. Si bien que, là encore, pour l'opinion du tout venant, une œuvre qui choque le goût, une œuvre qui choque tout court, une œuvre qui heurte le sens esthétique, peut être jugée comme indigne d'être une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pardonnez-moi d'être vulgaire, c'est de la merde, c'est pas de l'art. Alors, si je dis c'est de la merde, c'est parce que c'est une citation de Thomas Bernard, hein, je ne me permettrai pas de le dire comme ça, donc qui est un auteur contemporain autrichien qui a qualifié toutes les œuvres d'art qui l'ont précédé de merde. Et d'ailleurs, on peut le prendre au sens propre pour certaines œuvres d'art contemporain qui présentent effectivement la chose dont il est question. Et sans aller jusqu'à ces œuvres, on va dire, extrêmement... dont l'objectif délibéré est vraisemblablement de choquer, à tout le moins. C'est le cas de toutes les œuvres qui ont fait scandale dans l'histoire littéraire, dans l'histoire de l'art, et qui finalement aujourd'hui sont considérées comme de grandes œuvres. Donc ces œuvres qui heurtent le goût, qui heurtent le sens esthétique commun. Donc je pense aux Fleurs du mal de Baudelaire, dont on reparlera dans un moment, à l'Olympia de Manet, qui est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre, et puis plus récemment pour nous, aux colonnes de Buren, qui en leur temps ont fait scandale, près du Palais Royal à Paris, ou encore plus récemment aux œuvres de Jeff Koons, vous savez l'artiste américain, qui ont été exposées, donc aux œuvres kitschissimes de Jeff Koons, qui ont été exposées au milieu du palais du château de Versailles. Donc là encore, ça a fait scandale. Alors peut-être que Jeff Koons, finalement, sera considéré comme... ses œuvres exposées à Versailles donc seront exposées peut-être comme... seront considérées dans quelques temps comme des chefs-d'œuvre, au même titre que les Fleurs du Mal ou l'Olympia de Manet. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'à la fois, on va le voir, il y a peut-être un échec à viser l'idéal de beauté, et en même temps, l'amateur d'art ou le public réclame le beau. Au point que, du coup, tout un chacun se sent... autorisé à porter un jugement sur ce qui est ou n'est pas de l'art, sur ce qui est beau ou n'est pas beau en art. Chacun a des goûts artistiques. Et Loin de prendre la posture snob qui consisterait à mépriser le béotien, vous savez, incapable de goûter certaines œuvres d'art qui manifestement cherchent à choquer, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette demande du beau, de beau en art. Et en même temps, on voit bien qu'elle est problématique. Parce que, premièrement, si on demande que la beauté soit le but de l'art, on assigne un but à l'art, comme la science aurait son but qui serait le vrai, comme la technique aurait son but qui serait l'utile, l'art aurait son but qui serait le beau. Or, c'est extrêmement problématique de fixer un but à une pratique qui, par nature, est création, c'est-à-dire qui produit du nouveau à chaque, à chacune de ces étapes. D'autre part, donner un but, c'est énoncer ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Autrement dit, dire une norme, ce que doit être l'art. Si la beauté est le but de l'art, alors être beau, voilà la norme de l'art. Et voilà ce qui pourrait fonctionner comme critère pour dire ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Et là encore, c'est peut-être incompatible avec le caractère créatif ou l'activité créatrice de l'artiste. Puisque précisément, créer, c'est toujours déborder ce qui est attendu. Sinon, on imite, on refait. Voilà donc le problème qui est sous-tendu par la question « La beauté est-elle le but de l'art ?» Donc, il y a trois manières d'aborder la question de l'art. J'essaierai de les articuler, même si, évidemment, je ne pourrais pas faire le tour de la question. Mais quand on parle d'art, on parle soit des œuvres et puis de l'histoire des œuvres. Mais on peut aussi aborder la question sous l'angle de l'artiste, le créateur. Donc vous voyez que la question change de sens. Est-ce que la beauté est le but de l'art, de l'œuvre, ou est-ce que la beauté est le but conscient de l'artiste ? Et puis, dernier point de vue intéressant, je pense aussi, et qui va l'être vraiment particulièrement pour ce sujet-là, est-ce que la beauté est le but de l'art du point de vue du spectateur, hein, du point de vue de l'amateur d'art ? Ma thèse à ce propos, c'est que la beauté existe en art, du point de vue des œuvres. Il y a des œuvres dont on peut dire qu'elles sont belles. On se demandera pourquoi, on essaiera de se demander pourquoi, même si c'est une question extrêmement difficile, évidemment, à délimiter. Mais en revanche, la beauté n'est pas le but de l'art, au sens où il n'est pas pertinent, je crois, premièrement, de définir une norme de l'œuvre d'art, et surtout de penser que la beauté serait comme le but conscient que l'artiste se donne. Donc si, à la rigueur, il y a de la beauté en art, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que la beauté est le but de l'art. Donc la pierre d'achoppement, à mon avis, c'est cette notion de but. Et donc encore moins de la création artistique. La beauté n'est peut-être pas le but de la création artistique, ce qui ne veut pas dire que l'artiste s'interdit de faire beau ou de produire le beau ou de créer quelque chose de beau. Mais ce n'est pas forcément son but. Donc on va voir pourquoi. Alors, donc, excusez-moi, je récapitule ma thèse qui n'est pas terminée en fait. Donc si la beauté existe en art, elle n'est certainement pas le but conscient de l'artiste. Voilà. Mais en revanche, quand on parle de l'expérience esthétique, ce qu'on appelle l'expérience esthétique, c'est en fait la manière dont l'amateur d'art va rencontrer l'œuvre, va vivre son rapport aux œuvres. Lorsqu'il est question d'expérience esthétique, là, il est certainement beaucoup plus pertinent de parler de beau et de beauté. Et donc, je vais essayer de montrer à la fin de cet exposé que, en fait, la beauté, c'est un événement, pas vraiment un but, mais plutôt un événement. C'est quelque chose qui se produit dans la rencontre entre une œuvre, un artiste, et surtout un regard. La beauté, elle est, ça, vous connaissez l'adage, dans le regard de celui qui contemple. C'est apparemment attribué à Oscar Wilde, mais je n'ai pas retrouvé. Donc, je vous laisse vérifier, mais je n'ai pas réussi à le faire. Donc, c'est un adage qui, apparemment, aurait été employé par Oscar Wilde, mais ne vient pas forcément initialement de lui. La beauté dans le regard de celui qui contemple. Mais on pourrait interpréter cette phrase de manière subjectiviste. Donc, c'est beau parce que je crois que c'est beau, parce que c'est mon avis. Mais ce n'est pas ça. ce que j'essaie de montrer, c'est que la beauté est une rencontre entre une œuvre et un regard. Un événement, ce que je vais appeler un événement. Alors, dans une première partie, on verra en quoi, on va essayer d'examiner la légitimité quand même de cette idée selon laquelle l'art serait le domaine privilégié de, de l'expérience du beau. Parce que si cette idée est quand même dans la plupart des esprits, c'est pas pour rien. Même si l'art contemporain notamment s'inscrit en faux contre cette vision des choses. Mais justement, pourquoi, que faut-il détruire? Et pourquoi faut-il le détruire? D'où ça vient, cette idée que l'art serait le domaine spécifique du beau? Ce sera la première partie. Deuxième partie, on verra que la beauté n'est pas un but pour l'art. Donc première partie, la beauté est l'art est le domaine privilégié du beau, mais deuxième partie, la beauté n'est pas le but de l'art. Et la troisième partie, la beauté est un événement. Donc commençons. L'art est le domaine privilégié de l'expérience du beau, qu'on appellera expérience esthétique. J'expliquerai ce terme dans un moment, dans un petit moment. Alors tout d'abord, vous savez que le terme art ne désignait pas, jusqu'à finalement une époque assez récente de l'histoire, ne désignait pas spécifiquement le domaine de ce que nous appelons nous aujourd'hui les beaux-arts. En fait, le terme d'art, c'est ars en latin, techné en grec, et donc ça désignait jusqu'au XVIIIe siècle à la fois le domaine de la technique, du savoir-faire, et celui de ce que nous appelons aujourd'hui les beaux-arts. Donc c'est resté dans certaines expressions comme les écoles des arts et métiers, c'est les écoles d'ingénieurs, ou avoir l'art et la manière de faire quelque chose. Et d'une certaine manière, il y a de la beauté aussi en technique. Pour des objets techniques, on dit, par exemple, une belle casserole, ou c'est la bonne casserole ou c'est la belle casserole. Bon, je prends cet exemple parce qu'il est, il est assez ancien dans l'histoire de la philosophie, mais on pourrait l'employer pour plein d'autres. Par exemple, ça, c'est pas du beau micro, vous voyez, ça tient pas bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de beauté en technique? Pour le comprendre, on peut prendre une distinction célèbre d'Emmanuel Kant, le philosophe du XVIIIe siècle allemand, qui distingue au paragraphe 16 de la critique de la faculté de juger deux types de beauté, la beauté qu'il appelle libre et la beauté qu'il appelle adhérente. Beauté libre, beauté adhérente. Donc la beauté adhérente, précisément, c'est celle qui est appropriée pour les objets techniques. En fait, on dit qu'on porte le jugement « c'est beau » pour des objets techniques parce qu'ils sont appropriés à un concept, dit-il, c'est-à-dire à ce qu'ils doivent être. Donc on dit une belle casserole parce que une casserole, elle doit être je sais pas moi ce qu'elle doit être une casserole, elle doit être résistante, elle doit diffuser la chaleur, elle doit être maniable, etc. Elle doit être de bonne qualité, quoi. Et puis elle doit surtout permettre une bonne utilisation. Et on peut dire aussi, d'ailleurs, pas forcément que pour les objets techniques, mais on peut presque le dire aussi pour des êtres de la nature dont on va faire usage. Par exemple, on parlera d'une belle jument, ou on parlera de même d'un, bon, je sais pas moi, d'un beau, d'une belle charrue. J'imagine qu'on a pu parler à certaines époques d'une belle charrue. D'une belle ceinture de cuir. Bon, vous voyez de quoi. Donc, en fait, c'est quand l'objet technique est conforme et apte à l'usage qu'on attend de faire de lui. En revanche, donc, la beauté libre, celle que Kant dénomme ainsi, elle est appropriée aux œuvres d'art et elle ne suppose pas un tel concept. Donc on va dire c'est beau devant une œuvre d'art, mais on ne sait pas pourquoi. C'est pas parce que l'œuvre est telle qu'on attendait qu'elle soit. Quand on découvre un tableau pour la première fois, évidemment, ce qui nous émerveille, c'est la découverte, c'est la surprise. C'est de se laisser surprendre par ce que nous voyons ou par ce que nous entendons pour une musique. Si l'œuvre contemplée était conforme à ce qu'on attendait, on la trouverait certainement pas belle. On la trouverait convenue, conventionnelle. Donc il y a ce concept de beauté libre qui est approprié aux œuvres d'art. Alors, on peut s'appuyer sur cette distinction pour comprendre que peut-être les œuvres d'art nous offrent un plaisir d'une nature particulière, qui va d'ailleurs provoquer le jugement « c'est beau ». Et ce plaisir, pour Kant, n'est ni celui de la consommation, vous voyez, parce qu'il y a un plaisir dans la consommation, dans la satisfaction de nos besoins. Lorsqu'on a soif et qu'on boit du bon vin, de l'eau, mais aussi peut-être du bon vin, il y a une satisfaction qui est de l'ordre du sensible. Mais c'est une satisfaction de la consommation. C'est une satisfaction qui, dans le fond, va consommer, donc supprimer l'objet, en fait. On a plaisir à boire du bon vin, mais malheureusement, à la fin, il n'y a plus de vin. Bon. Donc c'est un plaisir qui n'est pas celui de la consommation, et ce n'est pas non plus un plaisir qui est celui de l'intellect. Il y a un plaisir à la connaissance. Et le plaisir du beau, il est entre ces deux pôles. Il n'est ni le plaisir de la consommation, parce qu'il laisse subsister son objet. On consomme le vin qui est bon, mais l'œuvre qui est belle, on la contemple. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une connaissance. Alors, il prend un exemple, qu'est-ce qu'il est, qui est par exemple, les rinceaux dans la décoration. Alors, ouais, j'imagine qu'au 18, il pense aux décorations typiques du 18e, on avait des entrelacs, des formes géométriques autour de motifs figuratifs, comme des oiseaux, des branches, etc. C'était toujours très bucolique. Et il dit, les rinceaux ou les entrelacs des formes sur un tapis peuvent provoquer un plaisir de ce type. On voit bien que c'est un plaisir qui n'est évidemment pas de l'ordre de la consommation. Il n'y en a aucun intérêt à la décoration du mur. Et qui n'est pas non plus d'ordre intellectuel parce qu'il n'y a rien de figuratif là. Les rinceaux, la décoration de ce type, où on peut penser au rythme dans la phrase poétique, on peut penser au rythme en musique, on peut penser à tout ce qui plaît par la forme, par la pure forme. À la danse, au mouvement de danse, là encore, c'est ni un plaisir c'est ni quelque chose qui nous apporte une satisfaction sensible, c'est ni quelque chose d'intellectuel, mais c'est un plaisir d'un ordre particulier. Voilà. Alors, ce que dit Kant, c'est que, voilà, typiquement, on essaye d'approcher ce qu'est ce jugement, qu'il appelle le jugement de goût, pur, ou jugement esthétique, c'est beau. Il est désintéressé. On n'a pas besoin de cet objet. Par exemple, il prend un autre exemple qui est assez parlant, on trouve un palais beau, alors qu'il n'est évidemment pas question d'y habiter. On n'a aucun intérêt à l'existence de ce palais, hein, parce qu'on sait bien qu'on n'habitera jamais Versailles. Et d'ailleurs, celui qui jalouserait Versailles, je sais pas, par exemple, Louis XIV qui jalousait Fouquet de Vaux-le-Vicomte, peut-être n'appréciait-il pas les beautés de Vaux-le-Vicomte. Vous voyez, quand on a un rapport intéressé à l'objet, peut-être qu'on n'est pas finalement dans la meilleure position pour apprécier sa beauté. Donc c'est un jugement désintéressé. Et on voit que, en fait, il y a un plaisir pris à la sensation. Il y a un plaisir de la vue, il y a un plaisir de l'ouïe. La vue et l'ouïe, essentiellement. Les autres sens sont moins désintéressés pour Kant. Donc, plaisir pris à la sensation en dehors du champ de la consommation. Alors, ce jugement esthétique est-il spécifique à l'art ? Puisque c'est quand même notre question. Pour Kant, non. Ce jugement de beau, il existe aussi pour la contemplation de la nature. Donc, les exemples sont discutables, comme toujours quand il est question de beau, mais quand on entend chanter le rossignol pour Kant, quand on regarde un beau coucher de soleil ou une mer apaisée, eh bien, on peut aussi avoir ce type de plaisir pris à la sensation sans pour autant qu'il y ait intérêt ou satisfaction. Seulement en art, ce que dit Kant, c'est que du coup, le bel art devra imiter la nature, au sens non pas où il devra représenter que des choses de la nature, mais où dans le bel art, il devra y avoir la même facilité apparente que dans la nature. On ne doit pas voir l'effort, comme dans la danse, vous savez. Le danseur, le grand danseur, le bon danseur, c'est celui qui ne montre pas l'effort. On a l'impression que le geste est naturel. Voilà, donc, ce qu'on retient de cette première analyse de Kant, qui est en matière d'esthétique, aujourd'hui en tout cas, une référence quoi, dans l'histoire de la pensée sur l'art, de la pensée du beau et de la pensée de l'art, c'est qu'on retient cette première idée qu'en fait l'art est inutile. Et parce que l'art est inutile, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas au service d'une satisfaction, eh bien, en fait, on peut goûter grâce à l'art, et aussi grâce à un certain rapport à la nature, mais en art en tout cas, on peut goûter vraiment un plaisir qui est d'une nature particulière et qui ne se retrouve pas dans le rapport aux autres objets. Alors, simplement, cette désolidarisation du champ artistique par rapport à tous les autres domaines de la vie, c'est un phénomène assez tardif dans l'histoire. Ça, il faut quand même en prendre conscience. C'est ce qu'on appelle l'apparition de l'esthétique, justement. Donc, l'esthétique, c'est une appréciation sensible du beau. Hein, c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre. Mais en fait, jusqu'à justement l'époque kantienne, quoi, l'époque moderne, on va dire, mais ça commence à la Renaissance, 17e, puis 18e, c'est vraiment théorisé pour cela. En fait, jusqu'à cette époque moderne, on n'avait pas du tout cette autonomie de l'art, ou du champ artistique, ou du champ esthétique. L'art était utile. Donc, y avait des peintures dans les églises pour enseigner les foules. En général, l'art était lié à des fonctions religieuses ou politiques, mais il n'y avait pas cette autonomie du champ de l'art. Et la réflexion sur l'esthétique, elle est contemporaine d'une autonomisation du champ de l'art pour justement être le lieu où l'on expérimente ce rapport au beau particulier. D'ailleurs, ça correspond aussi à l'apparition du musée, un lieu où l'on fait que goûter des œuvres d'art. Ça aurait été sûrement très étonnant pour les gens du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Un lieu qui est l'Antiquité, je sais pas, mais du Moyen-Âge, de goûter un lieu consacré à cela, sans autre utilité. Alors, ce qui nous permet de comprendre, dans un deuxième moment de cette première partie, j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite maintenant, que j'ai posé les grands concepts, ce qui nous permet de comprendre que, par exemple, donc mon propos, c'est toujours de montrer que l'art est un domaine spécifique du beau, ce qui nous permet de comprendre qu'on peut considérer, ou l'artiste, cette fois, peut considérer que le champ du beau n'est pas le champ du bon, du bien. Et que l'artiste s'émancipe du jugement moral. Car en effet, si la beauté est libre, contrairement à la fameuse beauté adhérente, d'accord, des objets techniques dont parlait Kant, si la beauté est libre en art, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas asservie à un but extérieur qu'on lui fixerait. Comme par exemple dans l'art de propagande ou dans l'art d'illustration. L'art de propagande, c'est il y a un régime en place et on met les artistes au pas pour faire l'éloge du pouvoir, etc. Bon. Donc on connaît les époques qui sont rendues célèbres pour ce type de pratique, enfin les pouvoirs qui ont pratiqué cet art. C'est le cas aussi lorsque l'art a pour fonction l'illustration. Vous savez, par exemple, un livre d'histoire, géographie. Eh bien, on va mettre un tableau pour illustrer une période. Bon, très bien, hein, pourquoi pas, c'est très intéressant. Mais simplement, on ne peut pas dire qu'on a un rapport à l'art qui est spécifiquement esthétique. L'art est utile, voilà, il est illustratif. Bon, dernier exemple, c'est une manière très simpliste sûrement de comprendre les fables de La Fontaine, comme si les fables de La Fontaine, c'est ce que croient les enfants, avaient pour but de nous enseigner la morale. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, quand on étudie un peu le rapport de la morale à la fable, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est pour ça, sûrement, que La Fontaine est un grand poète. Donc, si l'art est asservi à des finalités extrinsèques, donc, jargon philosophique, des finalités extrinsèques, c'est-à-dire si, depuis un domaine extérieur à l'art, on fixe un but à l'art et on lui demande de faire ce qu'il doit faire, quoi. Donc faire l'éloge du pouvoir ou enseigner la bonne morale aux petits-enfants. Eh bien, finalement, on dira qu'il n'y a pas un rapport vraiment esthétique à l'art. Au contraire, donc, l'artiste, il va revendiquer l'autonomie du domaine esthétique. En tout cas, à partir là encore de cette époque dont nous parlons et de manière encore plus exacerbée à l'époque romantique. L'artiste romantique, c'est celui qui se revendique comme créateur, et le créateur, il n'a pas à entendre la moindre règle extérieure à celle qu'il se fixe. Deux exemples pour cette autonomie de l'art, et notamment de l'art en tant que domaine du beau par opposition au domaine du moral. Deux œuvres scandaleuses, je parlais des Fleurs du mal en introduction de Baudelaire. Donc vous savez que Baudelaire a été accusé d'immoralité dans cette œuvre, par ce recueil de poèmes, et que donc les Fleurs du mal ont été interdites, etc. Donc je ne fais pas du tout toute l'histoire du procès, que d'ailleurs je ne connais pas très bien, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir la réponse de Baudelaire. Donc en fait, à la fin des Fleurs du mal, il y a un certain nombre de passages censurés, et puis des projets de préface dans les éditions ultérieures au procès, qui étaient des projets de réponse en fait aux accusations dont Baudelaire avait fait l'objet, et puis finalement on voit que Baudelaire abandonne devant tant de bêtises. Mais quand même, on en garde quelques idées intéressantes, surtout quand il s'agit de comprendre ce qu'est l'art. En fait, donc ce qui a choqué, c'est que des objets laids, voire vils, voire choquants pour la morale, le crime, la prostituée, la charogne, etc., eh bien, ces objets-là avaient pu faire l'objet de la poésie, enfin être décrits poétiquement, on va dire les choses ainsi. Et en fait, ce que dit le poète, ce que dit Baudelaire, c'est que nul objet, même vil, même laid, n'est indigne du poète. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de transformation tel que, en fait, alors vous connaissez la fameuse phrase qui est dans l'épilogue, il parle à Paris, à la ville, tu m'as donné ta boue, pardon, et j'en ai fait de l'or. Donc il y a une référence à l'alchimie ici, la poésie qui est comparée à l'alchimie, c'est-à-dire ce pouvoir de faire de ce qui est laid ou ordinaire ou indigne, d'en faire quelque chose de beau. Il dit aussi que dans son projet de préface, cette fois, il s'agit d'extraire pour lui la beauté du mal. Je lis juste. Si je retrouve. Voilà. Voilà. Des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Donc comme si la poésie devait forcément parler des fleurs, enfin pour résumer, hein, les provinces fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile d'extraire la beauté du mal. Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle. Et puis par la suite, de la distinction du bien avec le beau, de la beauté dans le mal, que le rythme et la rime répondent dans l'homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise. C'est intéressant parce que, je vais y revenir, l'art, le beau serait le domaine exclusif de l'art, et parce que seul l'art, dans ce cas-là, permettrait de répondre à un besoin de l'esprit ou de l'âme de l'homme qui serait ce besoin du beau, justement. J'y reviendrai dans un moment. Deuxième exemple de scandale fameux, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui a permis aussi une magnifique préface, très courte, mais avec quelques formules incisives pour ce sujet. Hein, je ne pouvais pas ne pas en citer. Donc le portrait de Dorian Gray, pareil, une œuvre immorale, hein, puisqu'on a un dandy qui vend son âme au diable pour conserver sa jeunesse, et donc du coup c'est son portrait qui va vieillir, puis à la fin finalement les choses, je raconte pas la fin, et donc là encore donc le crime, la déchéance, l'immoralité ont fait scandale. Et là, donc là, quelques formules intéressantes de défense ou de justification d'Oscar Wilde. Un artiste est un créateur de belles choses, premièrement. Donc là, on a vraiment un art qui revendique le beau. L'art est tout à fait inutile. Donc la condition du beau, c'est l'inutile. Et enfin, un livre n'est point moral ou immoral. Il est bien ou mal écrit, c'est tout. Un livre n'est point moral ou immoral, il est bien ou mal écrit, c'est tout. Donc c'est le propre de la position du dandy qui est de n'accepter comme valeur que les valeurs esthétiques. Et en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que la question du bien ou du mal, elle est en dehors, en deçà ou au-delà du champ de l'art. Hein. Il n'est pas question de se demander si Madame Bovary est morale ou pas. Madame Bovary, autre œuvre scandaleuse de l'histoire littéraire. Peu importe, en fait, parce que c'est un être de papier. Il peu importe de savoir si Dorian Gray fait bien ou mal de ce qu'il fait. Ce qui importe, ce qui est pertinent pour une œuvre d'art, c'est de se demander si c'est bien ou mal écrit, si ça a du style, si c'est beau. Alors, on peut se demander au terme de cette première partie en quoi, puisque c'est apparemment ce qui est revendiqué par ces artistes, ces deux poètes, ce poète, ce romancier, en quoi le beau serait-il réservé à l'art ? On a vu que chez Kant, il y avait quand même un jugement esthétique possible devant la nature, hein, un coucher de soleil ou l'ascension d'une montagne. On peut, en arrivant, connaître ce type de plaisir décrit par Kant. Et pourtant, pourquoi spécifiquement le beau se manifesterait dans l'art ? Qu'est-ce qui autorise cette revendication de l'art comme domaine spécifique du beau ? Alors justement, le philosophe Hegel, au XIXe siècle, répond à Kant sur cette question-là et critique l'esthétique kantienne sur cette question du beau naturel ou artistique. Pour Hegel, en fait, une œuvre d'art est infiniment plus belle, et d'ailleurs toute production de l'esprit humain est infiniment plus belle que la moindre parcelle de nature. Et finalement, si nous voyons la nature belle, c'est parce que nous sommes habitués aux œuvres d'art. Et parce que nous portons un regard d'artiste sur la nature. Alors je vais vous donner un petit peu son argumentation. Donc on trouve ça dans l'esthétique, les textes qui sont rassemblés sous le titre de esthétique, mais qui sont en fait des notes de cours d'étudiants. Donc en fait, Hegel fait une critique de la conception du beau naturel chez Kant et plus largement de la théorie de l'imitation, qui est une théorie qui est développée depuis l'Antiquité, en fait, qui dit que le but de l'art, c'est d'imiter la nature. Et d'ailleurs, on a un peu tous ce cliché en tête, peut-être, hein, c'est en tout cas quand on est peu initié aux œuvres d'art, parce qu'on est vite déçu quand on commence à voir un peu d'art, mais on pense que ce qui est beau, c'est ce qui est ressemblant. Ah, c'est vachement bien imité, waouh, vous voyez, hein, c'est un peu le jugement des enfants, hein, en matière esthétique quand même. Hein. Plus c'est ressemblant, plus c'est beau. Bon, pourquoi ça ? Ça serait une autre question. D'où ça vient, ce cliché ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il critique donc sa théorie de l'imitation et puis ce préjugé du sens commun. Qui est que plus c'est ressemblant, plus c'est beau. Au contraire, ce que montre Hegel avec une image assez parlante, c'est que si l'art se fixe comme but d'imiter la nature, attendez, j'ai pas exactement l'image, je vais vous la donner, c'est mieux. Il faut dire que l'art, quand il se borne à imiter, ne peut rivaliser avec la nature et qu'il ressemble à un ver qui s'efforce en rampant d'imiter un éléphant. Donc l'art qui cherche à imiter la nature, en fait, ça sert à rien, autant regarder la nature directement, et c'est de toute façon extrêmement pâteau, extrêmement faible. Et d'ailleurs, il dit un peu plus loin, c'est pas très sympa pour les artistes qui essayent d'imiter la nature, mais il dit que, dans le fond, l'invention technique la plus insignifiante a une valeur bien supérieure, et l'homme a lieu d'être plus fier d'avoir inventé le marteau, le clou, etc., que de réaliser des chefs-d'œuvre d'imitation. Donc il y a plus de beauté, d'une certaine manière, dans un clou ou dans un moteur de voiture, voilà, c'est anachronique, hein, mais il y a plus de beauté dans une machine que dans une œuvre d'imitation. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui est beau en art, c'est l'union du sensible et du spirituel. C'est la manifestation dans le sensible de l'esprit, de l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'union du sensible et du spirituel ? Le sensible, c'est pas le matériel. C'est pas seulement le matériel. Donc, il y a toujours de la sensibilité en art, d'accord ? L'art s'adresse au sens. Mais le sensible, c'est une apparence qui est déjà un peu abstraite par rapport à la matérialité pure. Par exemple, c'est une image. Donc, c'est pas le pain, mais c'est l'image du pain. C'est pas le bruit, mais c'est le son, voire la note. Et c'est déjà une abstraction par rapport à la matérialité de l'objet, de la nature, de l'objet existant. Et donc, en fait, l'apparence, elle est un intermédiaire entre la pure matière, la pure matérialité, et puis la pensée. Et donc, l'apparence en art, l'apparence sensible, c'est pas encore de la pensée, mais c'est plus de la matière. Et c'est ça qu'il veut dire par union du sensible et du spirituel. Vous voyez, ça ne veut pas dire que l'apparence, elle, traduit une idée. On croit ça parfois, on croit que l'art traduit des idées. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a union qui laisse subsister à la fois le sensible et le spirituel. L'idée n'est pas encore là, mais elle est déjà en creux, présente. Elle est signifiée. Il dit « ce n'est pas encore de la pensée, ce n'est plus une réalité matérielle ». En fait, ce que je cherche à décrire là, c'est ce qu'on appelle la forme. La forme en art, c'est plus de la matière, mais ce n'est pas encore de la pensée, ce n'est pas encore du concept. Et d'ailleurs, c'est un art assez ennuyeux, celui qui veut simplement illustrer des thèses, illustrer des théories. Ce n'est pas ça qu'on attend de l'art. On attend d'être dans le sensible, mais qu'en même temps, ce sensible soit spiritualisé, nous donne à penser. Donc évidemment, ça nous permet de comprendre, de manière un peu anticipée, hein, c'est vrai, mais ça nous permet de comprendre ce que cherche l'artiste quand il fait une abstraction. L'abstraction géométrique, par exemple, en peinture, ou tout simplement le suprématisme, par exemple, Malevitch, carré blanc sur fond blanc. Vous voyez, typiquement le tableau qui fait rigoler les jeunes élèves de terminale, et peut-être pas seulement, parce que, évidemment, là, on est étonné, parce que en gros, l'argument, c'est toujours n'importe qui peut faire ça. Bon, déjà, quand on donne cet argument, en fait, on confond art et technique. On attend de l'artiste qu'il soit un bon technicien, qu'il sache faire des trucs qui nous épatent, qu'il y ait des trucs super ressemblants, etc. Donc, justement, le carré blanc sur fond blanc, ou le monochrome d'Yves Klein, vous voyez, monochrome en bleu, eh bien, c'est de la forme sensible, parce que là, pour le coup, il y a de la sensation, il y a une sensation saturée même de bleu. Mais c'est pas de la matière puisque ça représente rien, c'est pas figuratif. Donc c'est de la pure forme qui n'est pas encore de la pensée, mais qui vraisemblablement donne à penser parce qu'il y a quelque chose de sûrement métaphysique derrière cette pure couleur, ce monochrome. Voilà, je développerai pas plus que ça, mais on peut peut-être illustrer ces propos de Hegel sur l'idée que la forme, c'est plus de la matière, c'est du sensible, mais c'est pas encore de la pensée, mais ça signifie vers la pensée. On peut l'illustrer, je crois, par l'abstraction en peinture. Et alors, donc, pour terminer quand même, pourquoi le sensible produit le beau et le plaisir esthétique ? Parce que, en fait, l'esprit aime à se contempler lui-même, pour Hegel, pour vraiment simplifier les choses, parce qu'il le faut avec Hegel. L'esprit, il aime à se contempler lui-même, et il y a une image qu'il prend, il dit, voilà, l'homme a une double existence. Voilà, l'homme, il est nature, il est matière, il a un corps, mais l'homme, il est aussi esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire être esprit ? Ça veut dire se connaître soi-même, chercher à se connaître soi-même. Et donc, non seulement on peut le faire grâce à la philosophie, grâce à la psychologie, les sciences humaines, mais on peut le faire aussi en art, on peut le faire aussi par le travail. Et il dit, ce penchant de l'esprit à chercher à se connaître lui-même, il est déjà présent instinctivement, de manière inconsciente, dans l'action du petit garçon qui jette des pierres dans le torrent. Le premier artiste, c'est finalement ce petit garçon qui fait des ricochets ou qui fait des ronds dans l'eau. C'est un artiste. D'ailleurs, ça fait penser à certains courants artistiques des années 70, vous savez, le land art. On a des artistes qui... Smithson, je crois. Spiral Jetty, ça vous dit quelque chose ? Une immense œuvre d'art, une spirale comme ça de sable aux États-Unis. Donc l'artiste comme celui qui met sa trace humaine dans la nature. Et d'ailleurs, Hegel, donc voilà ce qui nous fait plaisir en art, c'est que l'esprit se voit lui-même, se contemple lui-même à travers le sensible. Il domestique le sensible, vous voyez, il domestique la matière par l'intermédiaire du sensible. Et de même, ceux qui se tatouent, ceux qui se percent dans tous les sens, ceux qui modifient leur corps Il pense à, j'imagine, des retours de voyage qu'il aurait lus, etc. Nous, aujourd'hui, on a des exemples plus proches de nous. Ça fait partie de ce penchant. En fait, c'est extrêmement spirituel. C'est pas les sauvages qui se tatouent et qui se percent dans tous les sens. Bien au contraire, c'est des gens extrêmement civilisés au sens où ils manifestent par là l'activité de l'esprit. Donc là, il faut vraiment que je me dépêche. Voilà, donc j'en viens à ma deuxième partie. Donc je ne nie pas, et on l'a vu, qu'il y a une expérience du beau en art. En revanche, on va voir que ce qui est problématique, c'est la notion de but. C'est pas parce que l'art permet de vivre l'expérience esthétique que le beau est le but de l'art. Et on va voir que c'est en fait quand l'artiste vise l'art comme quand l'artiste vise le beau comme but que ça se dégrade et que ça devient pas beau du tout, peut-être. Bon, c'est vraiment pour simplifier les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que le but ? En philosophie, on dira que cette notion, elle se rapporte à la cause finale. Alors, je vais très vite. Aristote, physique, dit il y a quatre causes dans la nature, et il prend l'exemple de l'artisan. Donc, pour que l'artisan fasse artiste, c'est la même chose à l'époque, fasse une statue, il faut quatre causes, ou la cause a quatre aspects. Cause matérielle, le marbre, cause formelle, l'idée de la forme de la statue, donc l'idée de Vénus, si c'est une statue de Vénus, la cause efficiente, c'est-à-dire ce qui est efficace, qui va produire un effet, donc le marteau, enfin le, je sais pas comment on appelle ça, l'instrument du sculpteur, le geste, et puis la cause finale, c'est-à-dire la fonction. Et donc on voit qu'en fait la finalité, le but en tant que finalité consciente, préexiste dans l'esprit de l'artisan. C'est-à-dire, en fonction du but, la statue va décorer quel lieu, etc., ou va servir à quel culte, eh bien, en fonction du but, ça va modifier la forme. Et donc, c'est là où, à mon avis, la formule « la beauté comme but de l'art » est problématique, c'est que je ne vois pas comment la beauté de l'œuvre pourrait préexister, être anticipé dans l'esprit de l'artiste. Comme si, avant de faire l'œuvre, il pouvait déjà savoir exactement qu'elle sera belle et savoir exactement aussi comment elle sera belle. En fait, penser la beauté comme but, c'est la poser comme une idéalité, c'est-à-dire une idée qui, par définition, n'est pas et ne peut pas s'incarner dans la matière, ne peut pas être présentée. Parce que dès lors que la beauté idéale est présentée, c'est plus la beauté idéale. C'est la beauté particulière d'une œuvre. La beauté idéale, c'est précisément ce qui est visé par toutes les œuvres qui se réclament du beau, mais qui n'est jamais possédé par l'une d'entre elles complètement. Donc on en arrive à cette impossibilité. Viser la beauté idéale, c'est en même temps la poser comme horizon, et donc se résoudre à ne jamais réellement la saisir, vous voyez. Donc ce problème, il est... Bon, il est illustré par l'exemple dont je parlais en introduction, du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Et puis, il est posé de manière célèbre par Platon dans un dialogue sur le beau qui est l'Hippias majeur. Hippias, c'est H-I-P-I-A-S. Donc, où la question posée par Socrate, c'est qu'est-ce que le beau ? Hippias étant un sophiste avec lequel Socrate dialogue, qu'est-ce que le beau ? Et en fait... Donc, bon, le sophiste est un peu bêta. Platon décrit toujours des sophistes un peu bêta. En fait, ce pauvre Hippias, il arrive à dire ce qui est beau. Donc, d'ailleurs, c'est là où on parle de la belle marmite. Il arrive à dire ce qui est beau, donc telle œuvre, telle statue, telle femme, etc. Mais quant à dire ce qu'est le beau, c'est beaucoup plus difficile. On peut dire ce qui est beau. On peut dire ça, je trouve ça beau, ça, je trouve ça beau, ça, je trouve ça beau. Mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est beau ? Autrement dit, qu'est-ce que le beau ? C'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a des définitions successives, mais on n'arrive pas à une définition satisfaisante. Et en fait, ce que cherche Socrate, il arrive à dire ce qu'il cherche sans le trouver, c'est le beau comme l'idée dont participeraient toutes les choses belles, on dit qu'elles sont belles, on emploie le même mot. Pourtant, elles n'ont rien à voir. Une belle jument, une belle marmite, une belle femme, rien à voir. Mais quel est ce point commun ? C'est une idée, c'est un idéal. Donc il faudrait bien pouvoir le définir. Et en même temps, en tant qu'idéal, c'est ce qui n'est pas, ce qui ne peut être saisi, quoi. On voit bien que c'est ce qui ne peut être saisi. Alors ça renvoie évidemment à toute la métaphysique platonicienne que je ne développerai pas ici. Mais il me semble que c'est ce qui, pour l'artiste, est problématique dans cet idéal du beau en art. Parce que l'idéal du beau en art, c'est condamner la création à l'impossibilité et à l'échec. Donc, soit l'art est sans but, parce que si on lui fixe un but extérieur, l'art n'est plus libre, donc il n'est plus création. Soit l'art a un but, qui est le beau, puisqu'on a vu que le beau pouvait être le seul objet dont l'art se réclame comme étant son domaine spécifique. Mais si le beau est son but, ce but ne peut être pleinement réalisé. En fait, il me semble que de toute façon, quand l'art est beau ou quand il y a expérience du beau grâce à l'art ou dans l'art, on ne peut pas dire que le beau soit le but conscient de l'artiste. En fait, ce beau advient sans qu'il soit visé. Alors, autre dialogue de Platon sur le beau, le fameux banquet. Donc il est question, Socrate rejoint ses amis, on boit beaucoup, on discute, et il est question du désir. Qu'est-ce que le désir ? Qu'est-ce que le dieu Eros ? On essaye de définir, là encore, on essaye de définir une notion qui paraît commune. Tout le monde peut parler de cas particuliers du désir, mais quant à dire ce qu'est le désir, c'est très compliqué. Bon, bref, je vous passe tous les détails. Eh bien, arrive Socrate qui va donner quelque chose de plus sensé que le reste, et il va donner la parole à une femme. Il raconte qu'une femme nommée Diotime lui a tenu un discours sur le désir, et qu'en fait, le désir, profondément, est toujours désir du beau. Mais du beau, pas n'importe lequel, pas des choses belles. On désire les choses belles, mais quand on désire les choses belles, donc par exemple les beaux corps, ou les belles âmes, ou les belles actions, etc., on n'est jamais satisfait. Ça, c'est le propre du désir, c'est le tonneau des Danaïdes, on remplit, ça se vide, et on en veut encore, toujours et toujours. Donc l'insatisfaction du désir montre qu'en fait, quand on poursuit les choses belles, si elles ne nous satisfont pas totalement, c'est que chaque chose belle en particulier ne peut être vraiment ce que l'on cherche. C'est que l'on cherche quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et voilà pourquoi les choses finies ne nous satisfont pas. Et voilà pourquoi le désir humain est insatiable et nous rend très malheureux. Donc, par exemple, le désir charnel, enfin le désir sexuel, dit Platon, est fondamentalement un désir d'immortalité inconscient, hein, parce qu'on ne fait pas l'amour forcément pour avoir des enfants, même à l'époque de Platon, mais inconsciemment, il y a une force de vie qui s'exprime et qui a un lien avec l'enfantement. Et dans le fond, ce qu'on cherche inconsciemment, c'est à poursuivre son être dans ses enfants. De même, et c'est là ce qui m'intéresse, l'artiste ou le législateur, enfin celui qui va laisser une œuvre, ce qu'il cherche, c'est à laisser une trace derrière lui, donc à être immortel selon l'âme. Mais dans le fond, que ce soit les enfants ou les belles œuvres, ce sont que des copies, des pâles copies, sur le mode matériel, de ce qu'on cherche vraiment, qui est le beau éternel. Et dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est que, donc, vous voyez, on pourrait, donc, le banquet, ça parle pas de l'art spécifiquement, mais du beau, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce passage sur l'immortalité selon les œuvres, parce que ça concerne les artistes. Dans le fond, à faire des œuvres, ce qu'on cherche, c'est pas l'œuvre en elle-même, c'est le beau idéal à travers elle. Et Diotime dit, enfin, Socrate fait parler Diotime, et lui fait dire que l'amour travaille ceux qui aiment comme une véritable maladie. Et j'y vois ici l'expression, en fait, d'un désir inconscient. Le beau idéal, il n'est pas poursuivi comme un but conscient, il est poursuivi de manière inconsciente. L'amour travaille ceux qui aiment comme une véritable maladie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche profondément ? Je vous lis quand même le passage où il est question de cela. La beauté qui existe en elle-même et par elle-même, qui est simple et éternelle, de laquelle participent toutes les choses belles, de telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation ni amoindrissement. Bon, je crois que je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas le temps. Ce serait... J'aimerais lire toute la page, mais c'est... Donc on cherche un beau éternel, c'est-à-dire un beau qui n'est pas périssable, donc qui n'est pas de l'ordre du matériel. Donc de toute façon, il y a un échec à vouloir incarner l'idéal, parce que l'idéal est éternel et que l'œuvre d'art, elle est matérielle. Donc il y a de toute façon un hiatus infranchissable entre les deux. Donc finalement, chez Platon, l'art n'est certainement pas le moyen le plus apte pour, même si c'est l'un des moyens, mais ce n'est pas le moyen le plus apte, pour le plus approprié, pardon, pour saisir le beau. L'art laisse place à la philosophie, hein, le banquet décrit cette ascension vers le beau, l'art laisse place à la philosophie va être le seul moyen possible pour accéder à une forme de contemplation du beau, pour combler vraiment le désir profond et inconscient de notre âme. Et donc on en arrive à cette idée que, en fait, le beau est indifférent à l'art et l'art est indifférent au beau. Donc là, le beau est indifférent à l'art, on le voit finalement dans la condamnation des poètes par Platon, au livre 10 de la République, où il décrit sa cité idéale. Vous savez, les artistes, les poètes n'ont pas leur place. Et donc c'est resté dans l'histoire. Platon, et c'est une vision peu nuancée, mais Platon serait celui qui, dans le fond, considère que l'artiste peut être aisément remplacé par le philosophe pour la contemplation du bien, du beau et du vrai. Mais si le beau est indifférent à l'art, l'art le lui rend bien, et l'art est indifférent au beau. L'art devient indifférent au beau, en tout cas, dans l'histoire de l'art. En effet, on peut se demander si la beauté est bien le critère adéquat pour comprendre l'art. Donc, certes, le beau, ça s'apparente à une certaine esthétique. L'esthétique de la belle apparence, c'est justement l'esthétique classique, et c'est vraisemblablement celle que vise Kant quand il décrit le jugement de goût. Mais il y a d'autres esthétiques où il n'y a pas forcément cette visée du beau. C'est par exemple l'esthétique du sublime, dont il parle aussi. Où là, on n'a pas du tout une harmonie, mais on a plutôt, comme par exemple dans l'esthétique baroque ou l'esthétique romantique, on a quelque chose qui, du point de vue sensible, est chaotique, désorganisé, qui va manifester plutôt les forces de la nature et un écart entre nos facultés et puis la nature. On est plutôt bouleversé, ému, voire effrayé devant ce type d'esthétique. Alors, d'autres exemples, je vais multiplier les exemples. Le problème avec l'art, c'est que c'est pas sûr qu'on puisse le définir, c'est pas sûr qu'il y ait une unité de l'art. On dit l'art comme ça, mais en fait, il y a des œuvres d'art, il y a une histoire de l'art. Donc je vais là multiplier quelques exemples où on voit qu'il n'y a pas de poursuite et de recherche du beau. Et peut-être même exactement le contraire. On peut dire que l'art moderne, il est inauguré... plusieurs étapes, mais notamment par une décisive qui est Rimbaud. Et Rimbaud, vous connaissez la phrase dans Une saison en enfer, « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai insultée. » C'est peut-être le geste inaugural de l'art moderne. Et je l'ai injuriée, pardon, pas insultée. Et donc, c'est peut-être le geste inaugural de l'art moderne qui veut pas faire beau. Et d'ailleurs, quand l'artiste vise le beau, qu'est-ce qui se passe ? Il fait du joli. En fait, et c'est plus un artiste. Celui qui veut uniquement plaire, vous savez, c'est Kundera qui a pu appeler ça le kitsch. Hein. Le kitsch, c'est l'artiste qui veut faire joli, qui veut faire beau. Et finalement, malheureusement, c'est un peu l'artiste du dimanche, celui qui fait des petits chats dans des paniers et des couchers de soleil. Vous voyez, je suis pas très sympa, hein, parce que, bon, quand on n'est pas un grand artiste, moi la première, on fait ça. Mais, vous voyez, chercher délibérément le beau... ça peut conférer à faire du charmant, du joli, mais peut-être pas de l'art. Peut-être pas de l'art. Du décoratif, du qu'on voudrait bien dans son salon, mais est-ce que c'est ça de l'art ? Voyez le problème. Donc peut-être que le grand art, c'est celui qui finalement se fiche du beau. On pourrait presque aller jusque-là. Et puis, l'art moderne devient l'art contemporain. Et l'art contemporain, alors là encore, je ne pourrais pas en fixer une essence. Il y a une prolifération des œuvres telle qu'on ne peut pas, évidemment, définir une essence de l'art contemporain. Mais je vais essayer de donner quelques petits repères. L'art contemporain, c'est un art qui vraisemblablement donne à penser plus qu'il ne cherche à réjouir le regard. C'est moins qu'on puisse dire. Déjà, peut-être parce qu'il se caractérise, alors c'est pas typique de l'art contemporain, mais avant de parler de peinture ou d'art plastique, si on voit par exemple en cinéma, en théâtre, il se caractérise par une pauvreté des moyens. Qui fait que, d'ailleurs, il refuse l'illusion et il se signale comme œuvre d'art. Au cinéma, si on pense à des films comme ceux de Romère ou de Bresson, qui ne sont pas les plus folichons, certes, mais qui sont considérés comme de grandes œuvres. Et puis, on peut penser au théâtre à certaines mises en scène qui deviennent de moins en moins des mises en scène qui nous font croire à la vie, mais au contraire, qui montrent qu'on est bien au théâtre. Il n'y a plus de décors, il n'y a plus de costumes. Pourquoi ? Peut-être pour produire quelque chose qui va plus donner à penser. C'est ce que théorisait Brecht, par exemple, Bertolt Brecht au théâtre. Donner à penser... Éviter l'identification par ce qu'il appelle des procédés de distanciation pour qu'on sache qu'on est au théâtre et qu'on puisse réfléchir mieux à la vie. Justement parce qu'on pense pas que c'est la vie. Et puis en art plastique, dernier exemple... Bon, vous savez que l'œuvre qui est considérée comme inaugurale de l'art contemporain, c'est La Fontaine de Duchamp. Donc Duchamp, en 1917, donc il est refusé dans une exposition, et du coup, geste de pro... Enfin, c'est une blague, au départ, il prend un urinoir, une pissotière, il la retourne, il la signe R. Mutt, 1917, et il l'appelle Fontaine. En fait, il inaugure, alors il a fait ensuite d'autres œuvres de ce type, c'est-à-dire qu'il prend un objet usuel, pas forcément trivial, donc ça peut être une roue de bicyclette, ça peut être autre chose, et puis il va l'exposer, la mettre dans un lieu qui est justement dédié à la contemplation esthétique. Et ce que dit Duchamp, il a eu cette phrase, « Je leur ai flanqué à la figurine pissotière, et ils en admirent aujourd'hui la beauté esthétique ». Donc il sait bien, il connaît la dimension provocatrice et potache de son geste au départ. Et en même temps, il fait époque. Vous voyez, il fait plus époque que celui qui fait du Rembrandt aujourd'hui parce qu'il recopie des tableaux. Alors qu'il y a plus d'art au sens technique, peut-être dans celui qui fait aujourd'hui encore du Rembrandt, mais il y a moins de nouveautés. Qu'est-ce qui fait époque chez Duchamp ? C'est le fait que l'artiste... C'est avant tout celui qui fait un geste que personne n'a fait avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ridicule de considérer que la pissotière de Duchamp est belle, parce que c'est pas l'œuvre qui compte, c'est le geste, c'est le fait d'avoir le premier eu l'idée de prendre un objet usuel qu'on appelle un ready-made, si vous voulez l'air un peu initié à l'heure contemporain, parler des ready-made de Duchamp ou de Warhol par exemple. Autre exemple, Warhol qui prend des boîtes de Brillo, vous savez, savon. Et puis, il les entasse. On peut voir ça à New York, au MoMA, je crois. Il les entasse et puis il les donne à voir. Il donne à voir ce qu'on voit jamais. D'ailleurs, c'est très intéressant, ça. J'espère avoir le temps d'en parler un peu. Bon, je suis intarissable. Donc, je vais m'arrêter. Il y a juste une explication vraiment absolument fabuleuse de cette œuvre de Duchamp, Les boîtes de Brillo. C'est Arthur Danto, D-A-N-T-O. Donc, il y a un critique... il est peut-être mort, en fait. Bon, je dirais contemporain, mais le texte dont je parle est de 88, donc je suis en train de me dire que peut-être ce monsieur n'existe plus puisqu'il est né dans les années 20-30. Bon, Arthur Danto, donc il fait une explication de cette œuvre de Duchamp et qui montre qu'en fait la question pertinente pour comprendre cet art qui peut ne pas nous plaire, qui peut ne pas être considéré comme du grand art ni comme du bel art, mais c'est pas la question. C'est de l'art, parce que l'art, c'est un fait. L'art, c'est pas une norme à laquelle on devrait s'identifier. L'art, c'est un fait. C'est une histoire. Et cet art, la question pertinente pour en parler, c'est pas est-ce que c'est du grand art, est-ce que c'est du bel art, c'est qu'est-ce qui fait que c'est de l'art ? Pourquoi c'est de l'art ? Et la réponse, c'est que c'est considéré par l'art parce qu'il y a tout un contexte culturel, la critique, le musée, l'histoire de l'art qui est assumée et reprise, qui est interrogée, voire qui est critiquée par Warhol, ou le marché de l'art aussi, pour Warhol, ça sera plus pertinent. Et tout ça fait que ça va être considéré comme de l'art. Et la thèse de Danto, c'est que du coup, à partir de ces gestes de Warhol ou de Duchamp, n'importe quoi peut être de l'art. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit oh, c'est de la merde, c'est pas de l'art. Bon, n'importe quoi peut être de l'art, mais ça ne veut pas dire que tout est de l'art. N'importe quoi peut être de l'art, mais ça ne veut pas dire que tout est de l'art. Et quel est l'écart entre le n'importe quoi peut être de l'art et tout est de l'art ? Eh bien, c'est le geste de l'artiste. Il faut bien qu'il y ait un artiste qui ait fait ce geste. Je vais quand même essayer rapidement, mais rapidement vraiment, de parler de ma troisième partie. Donc, en fait, ce qu'on retient là, c'est que l'artiste, c'est celui qui a le geste créateur. Et ce geste créateur, il n'est pas forcément conscient de son but. Il n'est pas forcément conscient d'un but. Ou en tout cas, il est conscient de certains buts qui ne sont pas forcément la beauté. En revanche, ce geste n'est rien, n'est pas encore art tant qu'il n'a pas rencontré un regard ou une oreille. La musique, elle est faite pour être écoutée et les arts plastiques, l'architecture sont faits pour être vus. Donc peut-être que dans cette rencontre, advient la beauté. Donc la beauté n'est pas un but dans l'art, mais peut-être qu'elle est un événement qui se produit parfois. Premièrement, l'art n'est pas nécessairement sans but, mais la beauté n'est pas ce but. Je reviens sur cette question de l'art inutile. L'art, ça c'est Kant qui nous apprend, qui pense que l'art nécessairement est inutile, est hors du champ de l'utilité. Or, couper l'art de toute utilité, est-ce que c'est pas justement les réduire à la pure apparence et la pure apparence qui devient décoration et qui devient en fait le kitsch, justement. L'art qui veut éblouir, l'art qui veut en mettre plein la vue, l'art spectacle en art vivant. L'art spectacle, l'art spectaculaire qui nous empêche surtout de penser. Est-ce que couper ainsi l'art de la vie, c'est pas finalement faire dériver l'art vers la décoration et vers le kitsch et vers le joli et vers tout sauf la pensée ? C'est en tout cas ce que pense Le Corbusier. Donc c'est très intéressant de lire, j'ai trouvé, les traités d'architecture de Le Corbusier qui sont en fait des manifestes esthétiques. Et dans « Vers une architecture », Le Corbusier s'insurge contre les architectes de son époque qui, en fait, un, ne créent plus mais reproduisent des formes qui datent du XVIIIe siècle et deux, dans le fond, ne font que travailler pour la façade, la surface, ils décorent. Et il oppose à l'art de l'architecte de son temps celui de l'ingénieur. Et il dit que l'ingénieur produit le beau, ou les conditions du beau, en architecture, alors que l'architecte fait du décor, qui, dans le fond, cherche à réjouir le regard, mais qui n'a rien de ce qu'il appelle la véritable beauté. Alors, il y a quand même des passages savoureux que je ne résiste pas à vous lire, de vous lire. Donc, il dit « Les culs de lampe, les lampes et les guirlandes », il décrit ce que font les architectes de son temps, hein. Il est féroce. Les culs de lampe, les lampes et les guirlandes, les ovales exquis où des colombes triangulaires se baisent et s'entrebaisent. Les boudoirs garnis de coussins en potiron de velours, d'or et de noir, ne sont plus que les témoins insupportables d'un esprit mort. Donc vous voyez, il décrit le joli, en fait, le kitsch, quoi. Ces sanctuaires étouffés de la coco, où par ailleurs les bêtises gnangnan des paysanneries nous offensent. Nous avons pris le goût de l'air libre et de la pleine lumière. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, les architectes vivent dans l'étroitesse des acquis scolaires, dans l'ignorance des nouvelles règles de bâtir, et leur conception s'arrête volontiers aux colombes entrebaisées. J'adore les colombes entrebaisées. Voilà le joli, vous voyez, la colombe qui s'entrebaise, je sais pas trop quoi, les colombes qui se baisent et s'entrebaisent, ça c'est le joli. Et lui, ce qu'il veut, c'est le beau. Alors, on dit souvent, Le Corbusier, fonctionnalisme, le beau, c'est le fonctionnel. C'est faux. C'est ce que je croyais avant d'avoir relu vers une architecture. En fait, l'ingénieur, il va produire selon des impératifs de fonction, hein, et des impératifs économiques. Mais ce n'est pas encore beau. C'est à partir de ces conditions que le beau va pouvoir advenir. Et c'est pour ça que je dis que la beauté est événement. Alors, quelques formules magnifiques, je trouve. Donc, il oppose l'architecture véritable au travail du style. Hein, le travail du style, c'est méprisable pour Le Corbusier. L'architecture n'a rien à voir avec les styles. La construction, c'est pour faire tenir. Et l'architecture, c'est pour émouvoir. L'émotion architecturale, c'est le jeu savant, correct et magnifique. Savant, hein, donc il faut vraiment qu'on se plie aux lois de la nature, de la physique, comme le fait l'ingénieur. Et le modèle, vous le savez, c'est le paquebot, c'est l'avion. Donc le jeu savant, correct, il faut des règles, et magnifique, des volumes sous la lumière. L'architecture, l'émotion architecturale, c'est le jeu savant, correct et magnifique, des volumes sous la lumière. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le beau produit une émotion. Et l'émotion, ce n'est pas l'architecte qui la ressent. L'émotion, c'est celui qui va habiter la maison. Donc, on en vient au fait que le beau, il est dans l'expérience esthétique. Le beau, il n'arrive que dès lors qu'il y a une expérience. Il y a quelqu'un pour voir, pour habiter l'architecture ou pour écouter la musique. Je vais abréger parce que je vais arriver à la fin. Je reviens juste à Kant. En fait, Kant, là où il est intéressant quand même, enfin quand même, là où il est tout à fait... pourquoi est-ce qu'il a tant fait date en esthétique ? Qui suis-je pour dire ça ? Pardon. Mais c'est que, en fait, ce que dit Kant, c'est que le jugement de goût, le jugement c'est beau, en fait, c'est un jugement réfléchissant, dit-il. C'est un jugement où, en fait, le sujet est affecté lui-même par l'objet. C'est pas un jugement qui porte sur l'objet. Normalement, le jugement en philosophie, c'est ça, c'est dire quelque chose est ainsi. C'est ça un jugement en logique. Hein. C'est une appréciation sur l'objet. Le jugement de beau, le jugement esthétique, c'est un jugement réfléchissant. En fait, le sujet dit comment il est affecté par l'objet. Et ce que dit Kant, c'est que ce jugement, il est à la fois subjectif, hein, au sens où il est réfléchissant, mais il est universel, ou il vise l'universel. Il dit « est beau ce qui plaît universellement, sans concept ». Universellement, ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans les faits. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Mais quand je prononce ce jugement « c'est beau », je fais comme si tout le monde pouvait et devait ressentir la même expérience. Et pas parce que j'ai la connaissance que la propriété « c'est beau » est réellement dans l'objet. Il n'y a pas de connaissance dans le jugement esthétique. On ne nous donne pas la clé de la beauté. La clé de la beauté, elle n'est pas dans l'objet contemplé. Mais on fait comme si c'était dans l'objet. Mais dans le fond, on vise une espèce de satisfaction universelle du beau. Autant quand je dis « j'aime le vin des Canaries », dit Kant, en fait, on me corrige en disant « je ne dois pas dire justement le vin des Canaries, c'est bon », mais je dois dire « j'aime, je trouve ça bon, bon » ou « je n'aime pas ». Mais alors, ça, c'est l'agréable. Hein, c'est le jugement qui désigne l'agréable. Mais le jugement de beau, c'est beau. C'est réellement beau. Et en même temps, évidemment, on ne peut jamais justifier par des preuves que la qualité beau est dans l'objet. La qualité de beau, elle est donc dans le regard de celui qui contemple, mais non pas parce que c'est purement subjectif. Il y a une dimension universelle. C'est comme si c'était dans l'objet. Donc c'est dans la rencontre de l'objet et du sujet. J'ai presque fini. Vous m'accordez 3 minutes supplémentaires. Je dis que la beauté est événement. Elle est événement dans l'œuvre elle-même, qui advient, sans avoir été visée, une fois que certaines conditions sont remplies, Le Corbusier. Elle est événement parce qu'elle est rencontre d'un objet, mais surtout d'un sujet qui juge l'objet beau. Et elle est événement pour l'artiste. L'artiste ne vise pas le beau. Quand son œuvre est belle, il le découvre, tout comme nous. Tout à l'heure, je disais, il est faux de dire que la création artistique, c'est la visée d'un but conscient. Certes, l'artiste a des buts, mais très souvent, quand on lit des écrits d'artistes qui relatent l'expérience de la création, en fait, ce que montre l'artiste, c'est qu'en se confrontant à la matière, il est toujours surpris par ce qui advient. C'est vrai au théâtre, par exemple, quand on lit des récits de metteurs en scène, le metteur en scène, il avait une idée, et puis les comédiens en font autre chose, et puis les contraintes du lieu produisent autre chose, et advient quelque chose qui est un événement. Et qu'est-ce que c'est qu'un événement ? C'est ce qui n'était pas prévu, anticipé. Et donc la beauté, elle est aussi dans le regard de l'artiste sur son œuvre. Donc je vous lis un passage des lettres de la deuxième lettre du voyant de Rimbaud. « Je est un autre ». Vous connaissez par cœur, j'imagine, cette fameuse phrase. « Je est un autre », ça veut dire, on peut l'interpréter de plein de manières, mais c'est surtout le jeu de la création. En fait, dès lors que j'écris « je », c'est plus moi. le créateur est n'est plus, enfin il y a une sorte de dédoublement du moi dans l'activité créatrice. Je est un autre, cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma propre pensée. Je la regarde et je l'écoute. Je lance un coup d'archet. La symphonie fait son rumement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. Donc il y a un acte inconscient, et il y a un acte inconscient, paradoxal. Il y a un processus inconscient qui fait advenir l'œuvre. La création n'est pas du tout, pas seulement en tout cas, action consciente en vue d'un but. Voilà, donc l'œuvre, elle n'est pas entièrement anticipée mentalement, et le beau n'est pas le projet de l'artiste. En fait, le créateur crée par nécessité. Ce qui me permet de conclure sur les phrases de Rilke dans Les lettres à un jeune poète. J'en suis à la conclusion, rassurez-vous. Dans Les lettres à un jeune poète, donc le poète allemand Rilke, vous savez, il y a un jeune poète qui lui écrit, enfin un apprenti poète qui lui écrit en lui disant bah, « Dites-moi si mes vers sont bons, Rilke est très connu déjà. Dites-moi si mes vers sont bons, s'ils sont beaux. » Et Rilke répond « Vous me demandez si vos vers sont bons. » Donc il critique le fait qu'il lui ait demandé conseil. Vous demandez si vos vers sont bons, je vais quand même lire le passage. Vous pouvez mieux conclure avec Rilke qu'avec moi. Vous demandez si vos vers sont bons, vous me le demandez à moi, vous l'avez auparavant demandé à d'autres, vous les adressez à des revues, vous les comparez à d'autres poèmes, etc. Personne ne peut vous apporter aide et conseil, personne. Il n'est qu'une seule voie, entrez en vous-même. Recherchez au plus profond de vous-même la raison qui vous impose d'écrire. La raison qui vous impose d'écrire. Examinez si elle étend ses racines au tréfond de votre cœur. Faites-vous-en l'aveu, serait-ce la mort pour vous s'il vous était interdit d'écrire ? Et plus loin. Et si de ce retour au plus profond de vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, naissent des vers, vous n'aurez pas l'idée de demander à quelqu'un si ces vers sont bons. Pas plus que vous n'essayerez d'intéresser des revues à ses travaux. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née de la nécessité. Ce qui me permet de conclure en disant que la beauté n'est certainement pas le but de l'artiste. L'artiste crée par nécessité. C'est nous qui assignons ce but à l'art. Et ce n'est pas sans fondement, parce que nous recherchons dans l'art un plaisir qu'on appelle l'expérience esthétique et qui s'exprime par ces mots-là, par ce jugement-là. C'est beau. Mais c'est beau, ça ne veut pas dire c'est joli, c'est charmant et ça me charme. Le jugement c'est beau, il peut exister, l'émotion esthétique elle peut exister devant la représentation de quelque chose qui par ailleurs serait laid ou insignifiant. C'est justement à ça que sert l'art peut-être, s'il a une fonction, mais c'est ce que permet l'art, c'est d'éduquer notre regard à voir ce qu'on ne regarderait pas de cette manière-là ailleurs, comme une roue de bicyclette ou une raie éventrée, comme le fameux tableau de jardin, vous savez, la raie. Ou le crime, on le regarde d'une manière tout à fait inédite quand on lit Les fleurs du mal de Baudelaire. Voilà, donc l'art, en ce sens, se fiche du bon goût. Hein, la beauté n'est pas le but de l'art, si la beauté c'est le bon goût. L'art se fiche du bon goût puisque l'artiste, en créant, il déçoit et il surprend les attentes que nous avons par rapport au beau. Mais pour autant, il nous apprend à voir. Et nous apprenant à voir, nous pouvons dire qu'il nous permet d'expérimenter le beau. Merci.